Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, là, je suis avec juste Marc-André. Comment tu vas, Marc?
Yeah, ça va bien. C'est bizarre qu'on se retrouve juste les deux comme dans le bon vieux temps.
Hey, l'osé malade. Marc, oui. Travail de nuit. C'est quoi cette affaire-là?
C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ces partners-là de Marc?
Là, c'est quoi ça? Non. Watch, non, ton langage. Ouais, non, ça, ils sont
excuse, non, déjà... non, non.
Je te jure que tu n'arrives pas à la cheville de chacun d'eux individuellement.
Ah, okay.
Mais on retrouve dans fond, nos vieilles balises, nos vieilles pantoufles voilà. De juste toi et moi pour la soirée. Donc, plus court quand même. Hein? Contrairement à la semaine dernière, on fera seulement un seul enregistrement et non deux. À moins que tu veux en faire deux de 15 minutes, peut-être. je sais pas. On va essayer de pas trop s'étirer. Un seul devoir de match, dans le fond. Donc, un seul retour en détail. J'ai vu beaucoup de matchs, plus que toi. Mais j'aimerais ça quand même... tu sais, qu'on garde ça, la formule habituelle. Donc, tu me parleras d'un match tout à l'heure.
Voilà.
Mais avant toute chose, okay, on va remercier Dualité pour sa musique d'intro.
Voilà.
Et aussi, plug les réseaux. Je ne t'ai plus parlé. Plug les réseaux, Marc, vas-y.
Yes, donc quelques petits trucs que je veux vous dire en commençant. Donc, cette semaine, vraiment, a été une semaine très, très active sur nos réseaux sociaux. On a eu un pic de viewership, là, de nombre de vues de nos vidéos. Autant sur Facebook que sur YouTube, fait qu'on vous remercie. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que dans les statistiques, le trois quarts des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à nos plateformes. Fait qu'assurez-vous peut-être de vous abonner autant à Facebook que YouTube, l'Assistant Coach Podcast, ça nous donne un gros coup de main. Plus vous abonnez, plus on a de visibilité, puis plus ça se propage, plus le mot se passe. Fait qu'un gros merci de votre écoute, d'être là, mais assurez-vous de vous abonner à nos chaînes, ça nous aide vraiment un gros merci. On a aussi ajouté cette semaine un petit quelque chose de spécial, de nouveau, qu'on a testé, puis ça a vraiment bien réagi. C'est la vidéo qui a le plus marché sur YouTube depuis qu'on fait le podcast. Donc, une fois de temps en temps, on vous fera des petites vidéos. L'assistant bête du jour, donc avant un match, probablement qu'on en fera un peut-être demain avant le match de jeudi soir, mais des petites vidéos comme ça qu'on publie uniquement sur Facebook puis YouTube. Donc, un petit conseil de betting avant un match.
La question qu'on s'intéresse, là, oui. Est-ce que le conseil a porté fruit, oui ou non?
Non, le bet de l'osé n'a pas rentré. C'est dommage. Le conseil de l'osé n'a pas rentré. Mais ça reste que je pense qu'il y a quand même un appétit pour ça. Fait qu'on va poursuivre. On va poursuivre sur cette lancée-là. Donc, allez nous suivre, allez vous abonner.
Mais ça peut être une belle introduction, dans le fond, là. Écoutez, quelles sont les bets qui existent ou pas? Puis aussi notre opinion, dans le fond. Donc, si jamais on pense la même chose, ça peut consolider ce que vous pensez. Puis si jamais vous ne voyez pas la même chose, ben libre à vous. Hein, vous aurez gagné contre l'osé.
Voilà.
Donc, on n'est pas la science infuse, mais dans le fond, ça peut peut-être émoustiller l'intérêt. Parce que c'est vrai que ce qui me manquait, Marc, l'année passée, comme on n'en parlait pas, je trouvais ça un peu vide. J'ai perdu un peu la NFL. Mais là, je me retrouve cette année à, un peu comme les années passées, à en consommer plus de NFL. J'aime ça, puis ça me fait du bien.
Ouais.
Puis en plus, on avait une belle fin de semaine de football avec un dimanche matin avec une plage horaire dès 9h30 que j'ai écouté le match. C'était
un bon
super
match
divertissant.
Ouais.
Vikings-Browns, on n'en parlera pas en détail. J'avais pris pour les Browns pour le upset. Puis à la fin, ils m'ont fait
mentir.
La défensive s'écroule à la fin, puis les Vikings l'emportent. T'en parleras un petit peu dans le rafale. Mais ce que j'aime, puis les résultats vont le prouver aussi, c'est que je trouve que c'est une NFL en santé quand il n'y a pas des équipes trop médiocres ni trop puissantes. Et il y a eu beaucoup de matchs où est-ce que ça s'est rétabli un petit peu cet équilibre-là. Beaucoup de surprises, puis je trouve ça le fun à voir.
En fait, c'est drôle que tu dises ça parce que dans ma préparation, je m'étais pris comme note que je trouve que cette année, on n'a jamais eu une NFL avec autant de parité que cette année. T'sais, c'est pas pour rien qu'on a autant de upsets. Pourquoi on considère que c'est des upsets? C'est que ce sont des équipes que par le passé, c'était des powerhouses, que ce soit les Bills, que ce soit les Chiefs, que ce soit les Ravens. Peu importe, c'était des équipes qu'on disait c'est des grosses équipes, ça fait plusieurs années. Mais si on regarde dans les faits cette année, par exemple, les Ravens, c'est une équipe qui va vraiment pas bien, que ce soit les Chiefs, ils n'ont pas une si bonne saison à date. Ils ont eu une bonne victoire la semaine passée, mais là, ils se font battre par les Jaguars. Fait que je pense que la NFL, comme tu dis, n'a jamais eu autant de parité. Et pour moi, une ligue avec autant de parité, c'est une ligue en santé.
Et des équipes qui sont avec des fiches perdantes qui paraissent bien quand même.
100%.
Donc je trouve ça le fun parce qu'on ne veut pas voir... Nous, ce qu'on veut voir, c'est de l'intérêt pour les matchs. Nombre de fois qu'on voyait des équipes, même tu sais, le 2-3 ans pour nous citer nous-mêmes, où est-ce que les fiches étaient perdantes, mais on passait un bon lundi soir, printemps, à les regarder quand même. C'était divertissant. Puis des fois, c'était l'enjeu de mais peut-être qu'on s'accroche à une place en éliminatoire. Puis il y a eu des belles séquences où est-ce que les Sox étaient hors du portrait, puis se sont faufilés là, 2 ans à la toute fin de saison. Donc, c'est le fun quand l'ordre établi et ébranlé. Les Dolphins avaient été souvent médiocres, ont eu des super grosses années à l'attaque, ils ont eu des belles saisons.
Médiocres.
Ils sont 1 et 4, mais à cause des... Tu sais, l'ordre établi, toujours changement, puis c'est le fun, des surprises. Donc, c'est important de s'adapter aussi. Il y a une conjoncture, le calendrier change, les signatures changent, les blessures peuvent arriver aussi. Donc, quand même, ça fait partie de la game, puis c'est pour ça qu'on est là chaque semaine. Puis, le petit coup de pouce que je peux faire pour les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas harcelant. Donc, je sais qu'il y a des fois, quand on dit comme « Ah, abonnez-vous », des fois, tu t'abonnes parce que tu aimes le contenu, et là, tu te rends compte que c'est juste t'as trop d'alertes tout le temps, trop de notifications. Les audios, on les publie une ou deux fois par semaine selon la durée pour alléger ça. Et on fait quelques vidéos une fois de temps en temps. Donc, on n'est pas plusieurs fois par jour et on n'est pas non plus super agressant là-dessus.
100%.
Donc, je ne pense pas que même si vous mettez votre bouton, là, dans le fond, à « on » sur l'abonnement, je ne pense pas que vous allez avoir une petite crotte sur le cœur de comme « oh, ils sont vraiment achalants. »
Ouais, c'est ça, c'est trop bon.
On n'est pas du tout harcelant. Ouais. Des fois, tu veux peut-être pas voir la face de Marc-André, ben, passe la vidéo.
Ben, la vidéo de cette semaine, c'est l'Osé qui a eu le plus de vues.
L'Osé, ben oui, ouais. Les gens aiment l'Osé. Voilà, même l'Osé. Il nous manque. Mais il n'était pas en état d'être là.
Non,
mais
c'est
Marc-André,
ça.
Ouais, Marc-André, là, sans trêve de plaisanterie, là, fais-nous le segment en rafale avec les matchs dont on ne parlera pas ce soir.
Yes! Donc... On commence par le match du jeudi soir, un match super divertissant. Les 49ers avec leur équipe C qui battent les Rams que j'avais placé au sommet de la NFL, le top 2, top 3 des équipes de la NFL, 26 à 23. Mac Jones avait l'air de Tom Brady dans ses meilleures années. Grosse victoire pour les Rams qui passent, pour les 49ers, je m'excuse, qui passent à 4 victoires, 1 défaite. On en parlait un petit peu tantôt, les Vikings qui l'emportent 21 à 17. Dans le match du dimanche matin à Londres, Jordan Addison qui a été benché au premier quart parce qu'il a manqué un meeting cette semaine et qui conclut le match avec le toucher. En fait, pas juste le toucher, la dernière séquence, je pense qu'il y a 3 ou 4 catchs dans cette séquence-là. C'est lui qui fait la différence en fin de match, qui est revenu de sa suspension, il fait une grosse différence. Les Texans explosent complètement les Ravens. Les Ravens, il n'y a plus rien qui va dans cette équipe-là. Je ne comprends pas pourquoi le coordonnateur défensif n'a pas été congédié lundi matin. Les Texans l'emportent 44 à 10. Les Ravens, les éliminatoires sont de moins en moins réalistes pour eux. CJ Stroud, 4 passes de toucher. Les Panthers qui l'emportent 27 à 24 sur les Dolphins. Comme on disait tantôt, rien ne va plus pour les Dolphins. Donc, c'est une saison oubliée. Mike McDaniel, c'est pas mal la fin de ce côté-là. Les Colts éclatent les Raiders 40 à 6. Les Colts qui continuent sur leur lancée, pour vrai, j'ai pas le choix de leur lever mon chapeau. Là. Ça continue d'être éclatant, d'être vraiment impressionnant. Les Raiders, on en parle en bien en début de saison, mais ça, malheureusement, ça sera probablement pas leur saison cette année. Les Saints, il y en a qui pourraient dire que c'est un upset, battre les Giants 26 à 14. Les Giants qui avaient causé la surprise la semaine dernière, mais là, se font remettre la monnaie de leur pièce par les Saints qui battent les Giants dans le deuxième match de Jackson Dart. Les Cowboys l'emportent 37 à 22. Les Cowboys étaient négligés dans ce match-là. Fouillez-moi pourquoi, je ne voyais pas du tout comment les Jets allaient réussir à battre les Cowboys. Les Cowboys qui, malgré tout, jouent pour 500, malgré qu'on disait que ça allait être une saison difficile pour eux. Les Broncos causent, en quelque part, une certaine surprise parce que les Eagles étaient 4-0. L'emporte 21 à 17 sur les Eagles. Les Eagles qui continuent d'avoir des statistiques pitoyables autant en défensive qu'à l'attaque, mais ont malgré tout une fiche de 4 et 1. Les Titans causent la surprise sur des jeux loufoques incroyables. Je ne sais pas comment dire ça.
Hey, ce, match-là,
ce match-là, c'est
juste,
débile.
Je l'ai pas vu, là, mais j'ai tellement dans la conversation partagé des segments de match, je capotais. Je capotais.
C'était malade.
Allez voir les highlights. Ça n'a pas de maudit bon sens. La dernière séquence des Titans, il y a un des touchés, là, justement, des Titans qui n'a pas de maudit bon sens. Intercepté, les gars des Cards l'échappent. Puis là, Titan recouvre dans zone de but.
Ouais, c'est comme c'est ça. N'importe quoi.
C'est hallucinant. Le gars qui échappe le ballon à ligne de point 2 vert.
Hallucinant. Et le coach des Cards, Gannon, dans une altercation avec son running back, qui a laissé tomber le ballon à la ligne d'une verge, ça arrive vraiment trop souvent, a frappé son joueur. Suite de ça, s'excuse le lendemain, mais amende de 100 000 $ et selon moi, sa tête est mise à prix en
amende. Amende imposée par l'équipe des Cardinals et non la Ligue.
Exactement.
Coulons-le.
Ouais. Les Bucks. Ou excuse, t'allais dire excuse.
Non, juste continue parce que
on s'écarte. Oui. Les Buccaneers l'emportent 38 à 35 dans une bataille féroce entre deux des, je pense, bonnes équipes de la NFC. Donc, les Bucks, ils continuent leur excellente saison. Baker Mayfield est juste incroyable. Je ne sais pas c'est quoi ces odds, mais je serais peut-être prêt à mettre un petit 2$ sur sa candidature pour être MVP de la saison. Les Lions qui continuent leur séquence à mettre plusieurs points sur le tableau à chaque match, l'emporte 37 à 24 contre les pauvres Bengals qui sont allés chercher le sauveur Joe Flacco pour essayer de sauver leur saison.
Il est rendu à 3 équipes sur 4 de la AFC North.
Exactement.
7e équipe en carrière.
Voilà. Les Commanders l'emportent 27 à 10 qui se remettent sur le droit chemin parce qu'on avait des doutes. Jaden Daniels revient, ça fait du bien. Les Chargers avec une panoplie de blessés, ça commence à moins bien regarder pour les Chargers après un début de saison très, très, très impressionnant. Les Pats qui font le coup aux Bills l'emportent 23 à 20 dans le match du dimanche soir. Et les Pats reviennent dans la conversation pour une possible place en éliminatoire.
Et même pour gagner la division, un match derrière.
Ouais.
Et dans le fond, on a le tiebreaker jusqu'à maintenant.
Ouais. Voilà.
Donc, quand même touché. Puis, quand tu parles des surprises, là, on parlera un peu là, tout à l'heure. Là, dans quelques instants, on va parler du match dont on n'a pas parlé. Les Jaguars contre les Chiefs, pour ne pas le mentionner. Mais on va parler aussi, dans le fond, de segment division. Puis prépare un peu là, ton partage d'écran. Je vais te demander de quoi de particulier. On va faire le portrait des éliminatoires. Donc, in the
maintenant?
Hunt.
Okay.
Non, après le match. Fait,
okay, après, fond, okay, c'est bon.
Au lieu de parler des divisions séparées, on va voir un peu là, les meneurs de division. Puis qui est meilleur deuxième jusqu'à maintenant. Un petit segment. On ne fera pas ça chaque semaine, mais après 5 semaines, on va en profiter qu'on est juste deux. C'est ça.
Parfait.
Donc, dans le fond, les Chiefs contre les Jaguars. Je le mentionnais au podcast, Marc-André n'était pas d'accord avec moi. Les Jaguars n'étaient pas vraiment testés depuis le début de la saison. Donc, avaient gagné 3 matchs, avaient une défaite, mais on se demandait est-ce qu'ils allaient capables de battre les Chiefs qui étaient sur une lancée. En étant 2-2 avec 2 victoires convaincantes après un départ de 0-2, ils ont réussi à créer peut-être la surprise avec des victoires convaincantes et on se demandait est-ce que les Chiefs sont maintenant inarrêtables? Est-ce qu'ils vont être sur une lancée? Mais les Jaguars avec un vrai fumble et non un fake fumble touché, un vrai fumble où est-ce que le corps arrière tombe pour mentionner le Détroit l'an passé avec le Jared Goff qui fait semblant de tomber puis de passer à son porteur de ballon. Là, en tout cas, on parlera du match en tant que tel, mais les Jaguars créent la surprise et l'emportent 31-28 dans un thriller qui s'est joué à la toute fin du match. Marc-André, comment ça s'est passé ce match-là?
Exactement. Donc, vraiment, comme tu l'as dit, là, jusqu'à la dernière seconde, puis pour vrai, Casey avait vraiment pris l'avance en début de match. Au début, ça s'est observé un petit peu. Les 3 premières séquences se sont terminées par des 3-and-out. Donc, 2 fois Jacksonville, 1 fois Kansas City au premier quart. Donc, ça s'est quand même passé tranquillement. Après ça, 2e séquence de Casey, 11 jeux pour un touché à Kelsey. C'est une longue passe à Thornton qui a fait ce highlight de cette séquence-là. Une passe trop courte. Thornton est revenu pour capter le ballon. Ensuite de ça, je vais en parler maintenant. Je ne veux peut-être pas le garder pour plus tard, mais ensuite de ça, Jacksonville va traverser le terrain suite à cette séquence-là et il se ramasse en 4e et 1 verge, donc à la ligne des buts. Et Trevor Lawrence, à ce moment-là, va essayer de sauter pour faire traverser la ligne avec le ballon. Et il échappe le ballon. C'est un super beau jeu défensif. Et j'ai entendu beaucoup de hate sur Trevor Lawrence à ce moment-là. Pourquoi tu fais ça? Faut que tu protèges le ballon et tout et tout. Je suis en total désaccord avec ça. Je trouve qu'en 4e et 1, que tu te fasses arrêter ou que tu fasses un fumble, ça va pratiquement rien changer. Moi, je pense qu'à ce moment-là, si c'est un 2e essai, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Mais à partir du moment où c'est un 4e essai, je trouve que c'est une excellente décision. Tu joues le tout pour le tout, tu l'essayes. Moi, j'ai aucun malaise avec ce jeu-là. Tant qu'à te faire arrêter, tu es tout bien d'essayer puis d'avoir un fumble, ça n'a rien changé. Casey a repris le ballon exactement à la même place. Je ne sais pas ce que tu en penses, là.
Le fumble, dans le fond, c'est que moi, j'ai vu tout le match. En fait, je suis vraiment surpris de ce match-là. À un moment, je me suis endormi, mais j'ai réécouté la fin.
Ça partie, ouais.
mais... Dans le fond, quand c'est arrivé à ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu y ailles. Parce qu'à ce
sûr.
Moment-là, juste pour mettre en contexte, je pense que de mémoire, tu étais 0-7.
Exactement, là, tu dis, 7-0.
Je dois marquer un toucher. Parce que je marque un placement, puis les Chiefs, qui étaient quand même, ils ont eu une belle séquence, la séquence d'avant.
Ouais.
Je me dis, je ne sais pas si je veux être 14-0, puis au pire, ils vont devoir traverser le terrain. Et là,
exactement.
Momentanément, il s'est passé cette décision-là, mais le ballon, il a traversé la ligne. Il aurait pu marquer un toucher, mais il a perdu le contrôle
avant,
du ballon avant que le ballon traverse. Puis c'est un jeu là, qui, comme beaucoup de corps arrière font, je garde. Puis au lieu de tasser à gauche ou à droite, comme toutes les gaps étaient pleins par les joueurs défensifs, je me dis, je vais aller par en haut.
C'est ça.
Fait clear en haut. Mais il était un peu comme pris au dépourvu. Il n'y avait pas les deux mains sur la balle. Il a dû lâcher une main. Le ballon a glissé.
Tu sais, c'est un beau jeu défensif. Là. Je ne me souviens plus du nom du gars, mais il a levé sa main.
Il a levé sa main, il accroche. Je ne sais pas s'il a accroché le ballon ou juste le bras gauche de Trevor Lawrence. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça aurait pu, là.
Absolument.
Il a finalement fait toucher, ils ont dit waouh, quel effort individuel.
Exactement, c'est ça.
Il a tenté quelque chose. Vraiment. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. J'ai rien contre.
C'est ça.
Marc, tu n'avais pas fini par contre ton retour de match.
Non, yes, je voulais juste parler de ça. Ensuite de ça, Casey reprend le ballon à la ligne de justement de 3 et traverse le terrain au complet et prend les devants 14-0.
Mentionner qu'ils ont traversé le terrain avec du rythme, avec beaucoup de no-huddle et beaucoup de jeux explosifs.
Ouais.
Bolton a bien paru aussi, donc incroyable pour les Chiefs cette séquence-là.
Oui, donc ensuite de ça, Jacksonville, dans le fond, Jacksonville reprend le ballon et fait une deuxième belle séquence, traverse le terrain pour le toucher. Par contre, je veux mentionner l'interception manquée pour Casey. Il y a trois joueurs des Chiefs qui ont touché au ballon à l'intérieur de la ligne de 15. Et il n'y en a aucun qui a réussi à intercepter. Et je pense que cette interception-là manquée a vraiment changé l'histoire du match parce que tu interceptes ce ballon-là à ce moment-là, tu gardes l'avance 14-0 puis tu reprends le ballon. À la place, on s'en va au vestiaire à 14-7. On revient du vestiaire qui est ici punt en 5 jeux. Donc, Jacksonville, on voit vraiment que cette interception-là a vraiment changé le momentum. Jacksonville, après ce punt-là, traverse le terrain. Des beaux jeux d'Etienne, un superbe catch d'Hunter qui saute dans les airs par-dessus deux joueurs défensifs de Casey.
Mais prend le ballon bas.
Ouais.
Tu sais, c'est comme il saute par-dessus, mais pas pour aller le chercher haut, pour comme le joueur défensif était entre lui et le ballon.
Ouais, c'est
sauté par en haut, je mets mes mains par en bas pour comme
prendre
le ballon
qui
va toucher le joueur défensif, puis il ramène en haut. Puis il y a eu la décence d'esprit de sécuriser avec sa droite, puis avec sa gauche, ralentir sa chute.
Sa chute, vraiment.
Il est exceptionnel. Ouais. Ce jeu-là est incroyable.
Vraiment. Donc, Casey observe une superbe séquence suite à ça, mais ça se termine par un pick. On parlait des jeux qui ont changé le match. L'interception manquée tantôt, mais ce pick six-là est probablement le jeu le plus important du match parce que Casey est à l'intérieur du 10 de Jacksonville et à la place que Casey rajoute des points, mais c'est un pick six. Donc, c'est Jacksonville qui rajoute un touché. Ensuite de ça, interception de Lawrence à son tour qui mène au toucher de Casey. Et là, placement TD de Hunt, mais à la fin du match, Lawrence a le ballon en dernier avec moins de 2 minutes, traverse le terrain, troisième et sept dans son territoire, se fait frapper, super belle passe pour Thomas pour poursuivre la séquence. Ensuite de ça, il y a interception dans la zone de but, mais il y avait passe interférence de la part de Casey, une séquence complètement débile. Et finalement, je veux complètement loufoque à la fin. Lawrence, en prenant le ballon, se fait piler sur le pied par son garde à droite, tombe par terre, passe proche d'échapper le ballon, se relève, passe proche de se faire saquer 2-3 fois, finalement court dans la zone de but pour le toucher victorieux. Vraiment, Trevor Lawrence, mon highlight de ce match-là, c'est moi, c'est le plus beau match que je l'ai vu jouer. Il est exceptionnel par la passe, par la course, il a bien géré les moments. C'est, j'espère pour lui, un match baromètre. Là. Vraiment, ça peut être vraiment un match qui peut le propulser, je pense.
Moi, je trouve que sa carrière est en dessous-dessous. Puis c'est place que l'Osé, c'est quand même un bon détracteur. Là. J'aurais aimé ça qu'il soit là pour parler de cette situation-là. Parce que il y a deux choses que je ne veux pas. Marc, j'aimerais qu'on parle des Jaguars en premier.
Oui, absolument.
Pour pouvoir donner un peu ton opinion.
Oui.
Mais il y a quand même trois choses que j'aimerais mentionner par rapport aux Jaguars. Puis tu réagiras, soit tu m'arrêteras ou tu réagiras
Parfait.
À peu près. Je ne veux pas encenser un joueur après un match. Je ne veux pas dire cependant puis dire faire le contraire.
Ouais.
C'est que ça fait 4 ans qu'il y a des beaux flashs, mais faut d'admettre que les entraîneurs-chefs avant, leur projet s'estompait. Puis c'est comme le projet est comme mort un peu dans l'œuf. Ils ont eu des beaux flashs à la première année de Trevor Lawrence en éliminatoire. On en parlera contre les Chargers justement. Là, ce beau match-là que Marco adore, qui se fasse rappeler. Donc je sais que cette équipe-là a eu du succès. Ils en ont eu tôt quand même l'an passé, puis il y a 2 ans. Mais c'est comme amené un moment où ça s'est juste estompé. Puis on fait comme les Jaguars. Ça reste les Jaguars qu'on connaît. Puis, dans le fond, ils ont peu des belles saisons. Mais je pense qu'ils ont toujours eu les éléments. Mais là, l'entraîneur-chef, il est aimé, apprécié de leur monde. Puis, je pense que le propriétaire, tu sais, dans le fond, il commence à être un peu impatient avec les entraîneurs-chefs. Il y en a qui ont été congés durant la saison. On se rappellera là, d'un individu qui fête avec des jeunes dames dans un bar au lieu de rentrer chez lui avec l'avion.
Ouais.
Donc, il y a eu beaucoup de déboires au niveau des entraîneurs-chefs, puis ça a comme parti un peu en vrille. Fait là, je sens que c'est oui, tu parles de match baromètre, mais je sens qu'ils ont toujours eu des bons éléments pour performer. Puis là, je sens que la sauce pogne. Puis je trouve ça le fun d'avoir pour les Jaguars d'être compétitifs. Puis ils méritent ce qui leur arrive. 4 et 1, mérité, selon moi. Je ne sais pas si tu veux réagir avant que je dise autre chose.
Ben, tu sais, on le disait dans le podcast la semaine passée qu'ils n'avaient pas encore nécessairement été testés, mais là, clairement, dans ce match-là, ils ont été testés. Ils sont venus de l'arrière, ils ont fait face à l'adversité, ils remportent le match, puis tu te ramasses à 4 et 1, puis là, je pense qu'ils sont for real, là. Ils ne sont pas à prendre à la légère.
Ouais.
Tu sais, cette victoire-là est très, très rassurante pour le programme, je pense, là.
Ce que j'aime aussi de Trevor Lawrence, c'est qu'on le dit quand ça arrive, il a extrêmement bien distribué le ballon. Il a fait ses jeux, il a eu à courir, tu sais, on se
cache pas, là. 10 courses.
Il a eu à courir, ça a été des fois essentiel, comme par exemple à son dernier toucher, tu sais, justement, tu montres les stats, là, il y a 2 touchés, mais il n'y avait nulle part où aller à cause du pied piétiné, peu importe le jeu qui devait avoir lieu. Même l'entraîneur-chef a dit, c'est incroyable, parce que moi, dans ma tête, je me suis juste quand j'ai vu ça arriver, je dis, oh shit, ah, lance la balle, on aura un autre jeu. Puis il dit, le voir courir, briser trois plaqués, c'est vraiment inspirant, j'adore mon corps arrière. Donc, juste la manière dont il en parle, de comme spontané, tu sais, super comme fan, partisan, témoin de cette scène-là, je trouve ça vraiment incroyable. Je pense que Trevor Lawrence.
Il broyait ses lignes de côté, Cohen, quand Lawrence a fait son TD à la fin.
Je pense qu'il est émotionnel. Puis tant mieux pour. Tu sais, son Duval était gênant, sa première entrevue qu'on fait avec le presse. Mais je sens qu'il y a un beau projet, puis c'est le fun d'avoir des voix compétitives. Ça ajoute un petit peu, je trouve, ça va juste des flamèches dans cette AFC-là. Fait il distribue bien le ballon, puis il y a eu à courir. C'est un match comme Justin Herbert joue. Il distribue bien la balle, court beaucoup, peut-être un peu trop. Mais quand même, Travis Etienne a plus couru que lui. Fait je trouve ça vraiment encourageant. Puis la comparaison, c'est, on dirait, ils ont gagné comme les Chargers gagnent en début d'année.
Exactement. Exactement. Moi, mon downside de ça, moi, j'ai trouvé que Travis Hunter était vraiment pas assez impliqué dans cette équipe-là. Pour vrai, les catchs qu'il a fait, les jeux qu'il a fait, il est spectaculaire. Il a juste 3 targets. Je comprends que Lawrence n'a pas lancé énormément le ballon parce qu'il s'est ramassé à faire 10 courses. Mais moi, je veux vraiment voir Travis Hunter être plus impliqué dans ce match-là. Il y avait des highlights reel l'année passée à l'université. Tu te ramasses, je comprends que tu joues en def puis à l'attaque, fait que c'est difficile de l'utiliser, mais il faut qu'il trouve une façon de l'impliquer vraiment plus dans le plan de match parce que pour
moi. Je veux. Mais tu sais, Marc-André, c'est la NFL. Là. Fait que tu sais, mettons exemple, ils vont faire beaucoup de footage, puis ils vont être dans le film room.
Ouais.
Tu peux pas être dans le film room avec l'attaque et la défense en même temps.
C'est
fait ça. Ça fait beaucoup de footage. Fait que je préfère qu'il le brûle pas. Tu veux pas qu'il soit trop souvent sur le terrain.
Je comprends ta vision.
Il va apprendre de ses erreurs. Ouais. Puis que là, il se fasse brûler par des joueurs offensifs, là, qu'il y a un montage contre lui. Le fait que ça y aille par bribes, ça le met en confiance, ça ne met pas trop de pression sur lui, il ne doit pas avoir en tant que recrue toute la pression de la défensive ou de l'attaque.
Ouais.
L'attaque peut être assez dynamique, ils ont assez de joueurs à l'attaque comme dynamique. T'sais, on parle de 2 excellents courants avec Trevor Lawrence et Travis Etienne, plusieurs personnes qui peuvent attraper la balle, brûle pas le kid. C'est le nombre de fois qu'on en voit
un qui met en mêlée. Tu as raison.
Fait que, tant mieux si on est sur notre appétit versus on le voit trop et c'est gênant.
Oui, c'est gênant, je comprends.
Fait que pour les Jaguars, c'est encourageant qu'on ne le brûle pas et qu'ils ont un beau projet.
Fait que
moi, ce qu'ils font à date ne me déplaît pas. On aimerait ça en avoir plus. On aime ça, les jeunes sensations et les vents de fraîcheur.
Mm-hmm.
Mais moi, c'est mais pas
une pointe
que j'ai.
Moi, j'aime ton point de vue.
Mais beaucoup de gens disent ce que tu dis. Puis je les comprends. C'est la nouvelle sensation. Il va vendre des jerseys. C'est un phénomène. Mais brûle-le pas, le kid.
Puis en quelque part, ça marche. Ils sont 4 et 1. Fait qu'en quelque part, justement, tu réussis à gagner sans le brûler. Ouais. T'as raison. J'aime ton point.
Troisième aspect, parlons de la défensive des Jaguars, ce qui m'a vraiment impressionné parce que tu donnes, tu sais, dans le fond, tu donnes quand même l'équivalent de 1 touché par corps à une offensive qui était vraiment rodée, qui était en puissance, qui était plus en contrôle. Fait que je sais que ça, c'est beaucoup 28 points quand même, mais c'est quand même, ils en ont fait assez pour gagner le match. Ils ont mis quand même beaucoup de pression. Je sais qu'il y a des jeux manqués comme Travis, dans le fond, Travis Kelce qui reçoit la balle sur le casque et qui l'échappe. T'sais, il y a eu des mimes de même. Là. Mais je trouve quand même que la défensive de Jacksonville a fait la job contre une attaque qui était quand même avec un certain momentum.
En fait, tu regardes les stats sur papier, là, pour ceux qui ont le visuel, vous les voyez actuellement, là, Mahomes en haut de 300 verges, 150 verges par la course pour les Chiefs. Tu regardes ces stats-là, les Chiefs, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher à l'attaque. La différence, c'est que la dev des Jaguars a fait le gros jeu. Je le disais tantôt, le pick 6 à l'intérieur du 10, c'est le jeu qui a changé le match. Pour moi, c'est vraiment ça. Ils ont pas trop dans le sens qu'ils ont donné beaucoup de verges, mais ils n'ont pas fini par donner trop de points. Tu as donné une chance à ton attaque de gagner le match. Puis c'est surtout le fait que tu fais le pick 6 à l'intérieur de ta ligne de 10 qui change complètement l'allure du match. Moi, je pense que c'est un match positif pour les deux équipes. Les Chiefs, tu as des super bonnes choses à retenir de ce match-là. Tu es à un ou deux jeux de gagner ce match-là. Puis les Jaguars, tu limites les
Parce
Chiefs.
Il y a eu trois jeux clés, mais deux de la part de Jacksonville, puis un de la part de KC. Les deux jeux clés par rapport à Jacksonville, ça a été, tu sais, t'en as parlé là, justement,
ouais.
Mais ça a été à la fin les derniers touchés de Trevor Lawrence, qui a été,
exact.
Sans ça, il perdait le match.
Ouais.
Après ça, dans le fond, tu as eu
le
pick six, mais moi, ce que j'aime, c'est, tu sais, de KC à 14-0, je pensais qu'il y avait le vent dans les voiles.
Vraiment,
tu venais
vraiment.
D'empêcher en 4e et 1 de l'autre équipe de marquer un touché. Tu montes le terrain avec du momentum puis du rythme. Moi, j'étais comme, OK, là, ça va finir, ça va être un blowout. Mais que les Jaguars reviennent dans le match puis ensuite font un des beaux jeux après ça puis te ramènent, j'ai trouvé ça exceptionnel.
Oh, ouais, vraiment.
Quand ils ont marqué un touché puis c'est 14-7, j'étais comme, OK, on a un match, là.
Parce que vraiment le fun à 14-0 contre KC, t'aurais pu dire, oh boy, ça va être une longue soirée ici, puis on
tout se après, prépare des... Ouais, après, ça peut être une bonne pour une attaque d'arriver à 4-1 puis te faire comme bloquer complètement.
Absolument.
Le 0 joue dans la tête aussi. Tu sais, à la limite, un placement, tu marques des points. 0, oui, t'es comme, ah, c'est 14-0. Ouais. Mais ils ont quand même bâti sur la belle séquence, puis ils ont fait des jeux clés. Fait que honnêtement, c'est vraiment cool à regarder. Là. Comme on dit, le pick 6, grosse course, hein, le gars est essoufflé.
Ah oui, pas juste le gars Thornton aussi, le receveur de Casey qui l'a pourchassé. Pour vrai, il est arrivé à côté du gars, genre à la ligne de 5, il n'y a juste plus de jus pour le plaquer.
Il était là, il restait deux pas, puis il l'avait, puis il empêchait. Mais tu sais, comme, oh my god, la statistique, je pense que je l'ai vu tantôt, il a couru 130 verges pour essayer de voir le jeu.
Ah ouais, c'est fou, là.
Mais regarde, on va arrêter là, de parler de Jacksonville.
Voilà.
Casey, on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Ouais. Comme tu as dit, c'est encourageant pour eux, ils ont bien joué, ils ont passé à peu de choses. C'est deux bonnes équipes dans la
AFC. Pour moi, c'est pas une catastrophe du tout, là.
C'est pas genre, ah, 2-3, c'est fini.
Non, non,
au contraire,
exactement,
c'est pas fini
tout,
pour
là.
Eux du tout. Marc, zéro. Maintenant qu'on parle de la AFC, sors donc. Dans le fond, le classement, parce que je vais parler un petit peu plus du classement aujourd'hui.
Est-ce que tu veux le classement ou tu veux la playoff picture? Qu'est-ce
playoff
que t'aimes mieux?
Playoff picture,
parfait. Voilà, je te sors ça. Voilà, ici. J'ai les deux en même temps, ça, mais...
C'est des belles surprises quand même.
100%.
Les gagnants avec leur bye week, les Steelers qui restent troisième de la AFC.
Non, mais sans blague, mais juste si on fait juste regarder la AFC, fait que du côté gauche de votre écran, pour ceux qui regardent, pour moi, je regarde les six équipes qui sont là parce qu'il y en a juste six qui rentrent. En début de saison, il y en a trois que je ne voyais pas du tout là. Les Colts, les Steelers, les Jaguars, je ne les voyais pas du tout.
Quatre même.
Ben moi, Bills, Chargers puis Broncos, je les voyais faire les éliminatoires. Fait,
ouais,
moi,
mais pas premier de leur division, pas à cet endroit-là.
Pas à cet endroit-là, ça je comprends.
C'est plus ça mon point. Dans le fond, tu sais, Colts, belle surprise, mais ils jouent extrêmement bien. Bills, deuxième. Steelers, troisième. Chargers, quatrième. Deux défaites de suite qui font mal.
Ouais.
Jaguars, premier, dans le fond, bye. Ensuite, Broncos, Patriots.
Et bon, là, bye, là
wild,
que,
card, pas wild bye, card. Wild card, wild card. Oh, man, bye. Là, va-t'en un peu plus bas. Dans la chasse, encore techniquement, on a les Bengals, les Texans, les Chiefs, les Raiders et les Ravens. On ne parlera pas des Dolphins, des Browns, des Titans, des Jets. Mais si on revient là-dedans, les équipes que je pense qui ont le plus de potentiel de pouvoir se tailler une place et compétitionner pour tasser quelqu'un, ce serait les Chiefs et possiblement les Ravens à cause de leur histoire. Mais cette saison à 1-4, ils ne m'inspirent extrêmement pas confiance à cause de la défensive. Mais historiquement, par les années passées, c'est mon billet. Je ne peux pas encore les tasser complètement. Mais ça va être extrêmement difficile à 1-4 de revenir dans les éliminatoires.
En fait, pour te donner une idée, là, en ce moment, sur les sites de betting, les Ravens sont encore favoris pour gagner leur division par rapport aux Steelers.
Je le vois
mais
pas.
Pour vrai, je ne comprends pas que les gens aient autant confiance en cette équipe-là des Ravens. Je comprends qu'un peu comme on dit au début, historiquement, les Ravens dans les dernières années, clamor pis tout, mais cette défensive-là ne leur permettra pas de gagner beaucoup de matchs d'ici la fin de l'année.
Les Texans, l'année prochaine, t'accordes 44 points aux Texans. C'est quoi ton excuse?
C'est quoi, pourrait, c'est quoi ton excuse? On va se le dire, là, avec la AFC actuellement, ça va prendre 10 victoires pour faire les éliminatoires. Il n'y a personne à 9 victoires qui va se classer, je pense. Fait que ce que ça veut dire, c'est que les Ravens, ils ont 5 matchs de jouer, il en reste 12. Il faut que tu en gagnes minimum 9 sur 12 d'ici la fin de l'année.
Je te garantis pas une première place.
Non, exactement.
Tu ne penses pas que tu as une première place.
Ben, en fait, 10, ça, je pense pas que tu gagnes la division. Puis 10, tu n'es peut-être même pas sûr de classer wildcard. 10, c'est le minimum que ça va prendre. Ouais. Fait que moi, je vois pas les Ravens gagner 9 ou 10 matchs d'ici la fin de la saison. Même chose pour les Raiders. Fait que pour moi, ces deux équipes-là, c'est trop peu, trop tard. Là,
les Steelers sont en santé. C'est une bye qui arrive quand même un bon moment. Ouais. Ils ont du momentum. Et ils vont être à surveiller quand même prochainement.
Absolument.
Et là, parlons de la NFC un petit peu, s'il te plaît.
Oui, bien sûr, nous ramène ça en haut.
Pour moi, beaucoup moins de surprises. Je pense que je voyais extrêmement ces 6 équipes-là. Ouais. Mais quand même, ça se consolide un petit peu. Les Eagles premiers, 49ers deuxième, Buccaneers troisième, Lyon quatrième. Puis ensuite, en wildcard, on a les Packers, les Seahawks et les Vikings. C'est un peu ce qu'on imaginait. Dans la lutte, et qui sont vraiment là, à surveiller, les Commanders et les Rams qui ont une fiche, je pense, égale de 3 et 2 avec la dernière place de wildcard. Donc, ils sont comme à plusieurs égalités.
Ouais.
Mais le bris les défavorise en ce moment. On a les Falcons, les Bears, les Cowboys qui suivent, donc de 10e à 12e place. Et on ne parlera pas des Cardinals, des Panthers, des Saints et des Giants qui vont pas
voilà.
Puis tu parles des Saints qui ont créé la surprise. Tu sais, les Saints et les Giants sont les deux dernières équipes de la NFC. Donc, c'était les deux pires équipes qui s'affrontaient. Donc, rendu là, n'importe qui peut
gagner. Ben oui, exactement.
Les Saints n'auront pas aucune victoire, puis c'est fait. Là, officiellement, ils ont déjà gagné un match. Fait que bravo pour eux.
Exact. Puis je fais juste interrompre. Là, si on regarde sur le site de la NFL actuellement, les probabilités de faire les éliminatoires, tu regardes toutes les équipes à 1 et 4, là, c'est comme 6%, 2%, 3%, 2%, 4%, puis les Ravens à 1 et 4, 45%. Je ne comprends pas ce que les. Je le comprends pas.
Non, puis les Ravens vont affronter là, les Lions, les Packers. Oui. Dans le fond, les Vikings, ces divisions-là, ils ont zéro de matchs de fête là-dedans. Puis c'est toutes des équipes qui sont extrêmement bonnes qui peuvent te gagner.
Il te reste plein de matchs de division.
Les Cowboys, c'est pas donné.
Non, il te reste des matchs de division où c'est tough de gagner deux matchs de division contre la même équipe. Fait que pour vrai, moi, je vois vraiment mal les Ravens revenir après ce qu'ils m'ont montré. À moins qu'il y ait un changement immense de leur défensive puis que Lamar revienne en santé rapidement. Mais... Ça va être vraiment quelque chose. Là,
c'est pas soutenable. Il faut quelque chose qui change drastiquement.
Vraiment.
C'est le genre d'équipe qui, peut-être qu'à la bye week, vont enchaîner les victoires. Ils l'ont fait il y a quelques années, enchaîner genre 9 matchs de suite. Ils peuvent gagner 9 matchs de suite. Mais avec le calendrier qu'il leur reste, ça va être extrêmement difficile.
Ouais.
C'est pas facile. Tu sais, justement, la NFC North là, qui va être extrêmement dangereuse à aller chercher. Puis les Bears peuvent gagner un match là, contre
les
eux.
Les Bears sont bons. Ils sont pas si mauvais que ça, les Bears. Là.
Non. Ils sont à surveiller. C'est juste parce qu'ils sont dans la meilleure division, là, selon moi, en ce moment.
Ben oui.
Mais c'est à surveiller. Parce que tu sais, 3 équipes sur 4 font les playoffs.
Je pense que oui. C'est très bon, c'est ça. Puis c'est
en ce moment, 3 équipes sur 4 font les playoffs. Ça se peut que ça reste ou non, là, mais tu sais, les Vikings, les Packers et les Lions sont éliminatoires en ce moment. Watch out,
ça me fait rire, là, mais les playoff probability, là, les Vikings ont moins de chances de faire les éliminatoires à 3-2 que les Ravens à 1-4. Je comprends rien. C'est n'importe quoi.
C'est parce qu'on est dans la NFC, puis peut-être qu'on considère. Je sais pas. Mais les statistiques, là, je pense que c'est ça. Il y a comme la vieille garde, puis il y a eu longtemps des stabilités. Les bonnes équipes restaient bonnes, les moins bonnes restaient moins bonnes. Tu avais des offsets, mais là, on n'est plus dans ce genre de NFL.
Non, vraiment pas.
D'une saison à l'autre, c'est complètement différent. Il y a trop de changements défensifs, des coordonnateurs qui changent aussi, les visions qui changent. On ne peut plus juste se fier aux années passées. Il faut se fier à ce qu'on voit maintenant, puis le produit des Ravens maintenant n'est pas adéquat.
100%.
Maintenant, parlons des matchs à venir. Mais avant, nos prédictions, Marc, fais un petit topo. Yes, qui a gagné la semaine dernière, les prédictions?
Yes. Donc, les prédictions de la semaine dernière. Donc, ça a été une semaine difficile pour tout le monde, honnêtement. Il y a juste moi qui finis la semaine en haut de 500. Donc, 8 victoires, 6 défaites. On a Lozé qui a été pour 500. Toi, 6 et 8. Puis Marco, une semaine difficile, 5 et 9. Ça fait que toi et Marco, vous êtes égaux en tête après 3 semaines pour
J'ai même pas la moitié des bonnes prédictions, puis je suis en tête. C'est quoi ça?
Ouais, exactement.
Moi, j'allais le tout pour le tout avec Cleveland qui bat Minnesota. J'aurais tellement aimé ça.
T'aurais été le seul. Ouais.
Aïe, j'aurais vraiment, vraiment aimé ça.
Voilà.
En même temps, regarde, j'étais visionnaire. Là, Tampa Bay.
C'est ça.
Mais que les Chargers perdent, que les Bills se fassent savoir dans le match piège que tu avais prédit, puis Casey qui perdent, c'est quand même, ça a été, on l'a pas vu venir la fin là, du calendrier. De la semaine 5.
Non, exact.
Là, maintenant, parlons des matchs à venir. Donc, montre-nous les prédictions. Puis, on a Lozé et Marco qui ont envoyé les prédictions de la prédiction à venir.
Voilà.
Là, dans le fond, on commence les Eagles visitent les Giants. Et je prends pour les Eagles.
Je vais prendre les Eagles aussi. Je pense que c'est la première fois de l'année que je prends les Eagles.
Lozé et Marco prennent pour les Eagles aussi. On a les Broncos qui visitent les Jets. Et je prends pour les Broncos.
Moi aussi.
Et dans le fond, Lozé et Marco aussi. Les Rams visitent les Ravens et les Rams vont l'emporter.
Oh, 100%. Je serais vraiment sur le cul que les Ravens gagnent.
Ouais, les Cowboys visitent les Panthers et les Cowboys vont l'emporter. C'est fini, les Panthers pour victoire.
Je vais prendre Dallas aussi. À date, on est 4 en 4.
On est tous unanimes, mais c'est des matchs faciles pour l'instant. Là. Les Cards visitent les Colts, mais les Colts sont les puissants Colts. OK, maintenant, quand on mentionne les Colts, il faut dire puissants. Hein.
Oui.
Donc là, on est unanimes pour les 5 premiers matchs. J'espère qu'on ne se trompera pas. Là, maintenant, c'est là que peut-être qu'on va avoir des
équipes qui
divergent. Seahawks sont Jaguars. Moi, je prends pour les Jaguars.
Je te supporte là-dedans. Je prends les Jaguars.
Ouh, split 50-50. Seattle pour Lozé et Marco. On a les Chargers qui visitent les Dolphins. Et je prends pour les Chargers. Ils bounce back après 2 défaites de suite.
Il faudrait, mais pour vrai, je vais mettre Chargers. Mais je vous le dis, je serais vraiment pas étonné que Miami cause un upset dans ce match-là. Les Chargers ont beaucoup de blessés.
Les Browns visitent les Steelers. Je vous le dis, ça va être serré, mais les Steelers vont l'emporter dans ce match-là.
Je pense que Pittsburgh va gagner aussi.
Les Patriots visitent les Saints et les Patriots l'emportent.
Oui, moi aussi. 100% d'accord.
Les Titans visitent les Raiders. 2 équipes médiocres à 1 et 4. Nice. Mais je pense que les Titans vont l'emporter. Les Raiders vont nulle part.
Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'Ashton Gentry va faire une différence. Las Vegas.
Il va faire une différence dans une cause perdante, Marc. Les 49ers visitent les Bucks et 2 équipes à 4 et 1. Mais les Bucks, je les adore. Je prends pour les Bucks.
Ben, les Bucks sont plus en santé. Quoique, ils ont des wide receivers de blessés, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce que
Irving n'est pas 100%.
Ouais.
On est unanime, tout le monde. Dans le fond, les Bengals visitent les Packers et les Packers l'emportent. Joe Flacco, entrée de jeu.
Ouais,
mais
je pense
ça ne sera pas suffisant
après,
à Green Bay.
Après le bail, en plus, Green Bay sort d'un bail. Je serais étonné que Green Bay perde.
Ah oh ouais, mais tu sais, ils pourraient être invaincus jusqu'à la fin de la saison, selon les joueurs.
Ouais, c'est ça.
Les Lions visitent les Chiefs et je pense que les Lions vont l'emporter.
Je supporte ce choix.
Mais par contre, Lozé nous dirait que le match est plus important pour les Chiefs, mais ça doit être plus important. Ils sont pas de taille contre les Lions.
Ben, je suis pas tant d'accord. Moi, je pense que pour les Lions aussi, c'est important parce que tu veux pas finir deuxième dans ta division.
Tu veux finir premier et dans le fond, tu voudrais aspirer au bye week.
Au bye week aussi.
T'aimerais ça peut-être une fois goûter à ça, une semaine de repos en playoff.
Exact.
Les Bills visitent les Falcons et les Bills bounce back, ils vont gagner.
Oui, moi aussi, on est unanime les 4 là-dessus.
Les Bears visitent les Commanders et là, c'est touché, mais je pense que les Bears l'emportent. Ils sortent d'un bail, ils vont être frais et dispo, beau projet.
Je supporte cette décision, je prends les Bears, moi aussi.
Mais Marco prend pour Washington.
Ouais.
Et ce sont 2 équipes en bail, les Texans et les Vikings. Les Texans manqueront en personne, qui se reposent bien. Les Vikings, de leur voyage de 2 semaines, dans le fond, là, à l'international, reviennent à la maison. Un congé bien mérité pour les Vikings.
Ouais. Hey, 11 matchs sur 15 qu'on est les 4 d'accord.
On est mieux d'être bon. Là.
Ouais, c'est ça. On est mieux. Ça se peut qu'on soit très bon ou qu'on soit très poche quand on se reparle la semaine prochaine.
Mais il y a des choix quand même plus évidents que d'autres, selon moi.
Je pense que oui.
Mais on ne sait jamais, peut-être. T'sais. Les surprises peuvent arriver. Est-ce que les Cards vont être énergisés par les coups de poing sur les running backs puis battre les Colts? Est-ce que les Panthers oublient qu'ils n'étaient pas bons puis là, ils vont devenir bons tout d'un coup à cause que les commentaires de Baker Mayfield qui ont dit « Ah, ils n'ont pas voulu me garder. » Puis là, le coach qui dit « Ouais, mais les coachs, on n'a pas beaucoup de… » T'as-tu vu ce segment-là?
Non, j'ai pas vu ça.
Baker Mayfield, il a dit que, dans le fond, le coach des Panthers l'avait coupé. Et le coach des Panthers a répliqué que c'est pas lui qui décide quel joueur fait le roster, c'est plus le GM.
Le GM,
parce
c'est
que sinon, il se serait jamais débarrassé de son meilleur joueur. Et là, il a fait une petite pause, puis il a dit Christian McCaffrey. On pensait qu'il allait faire genre Baker, mais non, Christian McCaffrey.
J'aime ça.
Puis c'était même pas lui, je pense, qui était coach à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Je pense que pas. Ouais, c'est ça.
Donc, on a quand même des beaux matchs à venir. Parlons des matchs prime time. On a quand même aussi un match là, à 9h30 le matin, le dimanche. Donc, on a quand même plus de plages horaires encore. C'est un match qui est à Londres, donc à l'international. Mais avant de parler de ce match-là, les Eagles visitent les Giants dans un duel de division. Ce match-là, c'est sûr que c'est un match prime time. Je vais regarder le début, c'est sûr. Est-ce que les Giants avec Dart vont être compétitifs ou non dans ce match-là, Marc?
Ben, tu sais, moi, je pense que les Eagles vont gagner. J'ai pris les Eagles, mais ça reste que je n'aime pas cette équipe-là. Les Giants, une bonne semaine à la première semaine de Jackson Dart, une moins bonne la deuxième contre les Saints. Ça reste un duel de division, ça reste deux équipes qui ne s'aiment pas, mais ça reste que tout ne tourne pas rond du côté des Eagles. AJ Brown n'est pas content, fait des messages sur ses réseaux sociaux pour dire que ça ne tourne pas à son goût. Et ça reste que c'est une équipe ultra talentueuse. Je ne sais pas ça va aller où, cette équipe-là. Moi, je pense que ça peut être un match quand même plus serré qu'on le pense.
En fait, moi, j'aimerais ça dire pourquoi je suis d'accord et pas d'accord au sujet des
Eagles. Ben oui, vas-y, ouais.
C'est que les Eagles, à 4-0, ils gagnaient de manière pas si belle, mais ils gagnaient. Un peu comme tu sais, dans NHL, quand Martin Brodeur jouait avec la trappe, puis il gagnait plein de matchs 1-0. Ça reste que quand tu gagnes, tes fans sont contents, puis tu gagnes, t'es compétitif. T'es champion du Super Bowl, man. Genre, de quoi tu te plains, Jay Brown? T'es payé des millions de dollars.
Oh, ouais.
Tu as des contrats les plus lucratifs. Parce que t'as pas de stats, tu te plains. Mais la semaine où ils veulent te rendre heureux, puis ils te feed, vous perdez le match. Fait que moi, ce que je constate, c'est que quand c'est une identité où est-ce que c'est le jeu au sol, c'est on suffoque l'attaque adverse avec des séquences qui sont longues. Puis si on a besoin d'un jeu explosif, on est capable d'aller en chercher avec nos deux top wide receivers. Avec Devonta Smith et AJ Brown, ils sont capables. Ils ne se basent pas là-dessus pour gagner des matchs. Souvent, ils vont aller avec un jeu au sol, avec un up-tempo, puis dès qu'ils prennent le lead, puis l'équipe essaie d'arrêter le jeu au sol, ça ouvre le jeu aérien, puis là, les blowouts arrivent. Les gros catchs puis les gros gains de AJ Brown, c'est pas en début de match, c'est en fin de match que ça arrive.
Ouais.
Tu sais, c'est pas compliqué. Je m'en fous là, de tes stats. Puis si tes stats sont importantes ou tes joueurs de fantasy football, genre ton nom est important pour toi, qu'est-ce que c'est important? T'es champion du Super Bowl, t'es parmi les mieux payés dans une équipe qui est 4-0. Genre, pourquoi tu te plains, tu veux pleurer?
Oh, ouais.
Ça me rappelle littéralement avec, tu sais, dans le fond, Antonio Brown avec les Steelers, où est-ce que les Steelers gagnaient, puis il y avait drama, Diva Queen. L'équipe l'aimait tellement pas que c'est même pas lui qui a été voté par les joueurs, le MVP de l'équipe. C'était Juju Smith-Schuster, puis ouais, c'était, ils ont dit ouais. on va partir parce qu'on l'aime pas finalement.
Ouais.
Mais tu sais, Jay Brown, genre, pour vrai, là, mets de l'eau dans ton vin ou arrête de boire du vin carrément. Genre, la seconde qu'on veut te rendre heureux, on perd le match. Fait que tu sais, comprends le message. Là.
Ouais, ouais.
Assume ton rôle, puis tu sais, c'est pas pour rien qu'on connaît là, le nom du GM, là, Roseman, là, tu sais. Puis c'est parce qu'il construit une bonne équipe, il a su donner des bons contrats, libérer des joueurs au bon moment,
puis
le prochain à partir. Là.
Ouais.
Déjà, à être de même, ils n'ont pas besoin de toi.
Ben non, 100%.
Ils gagnent sans toi. Fait. Amener, c'est peut-être même qu'ils vont l'échanger pour dire ah ben, on se débarrasse d'un gros contrat, on peut payer nos joueurs défensifs qui deviennent de plus en plus vieux, qu'on a tous redraftés les deux mêmes années pour consolider ça. AJ Brown fait le prochain à partir, puis ta carrière va mourir comme d'autres. Top wide receivers qui ont été changés. Va finir ta carrière avec les Titans.
Ouais.
Va aller avec les Cards, voir comment ça se passe. Là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, fait que moi, j'aime pas du tout le AJ Brown, son attitude. Me déçoit énormément, mais le reste de l'équipe, je les adore. 4-0, t'es un powerhouse, tu gagnes. 4-1 maintenant, ils gagnent. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Puis ils gagnent contre des bonnes équipes. Ils ont gagné contre
ils ont battu des bonnes équipes.
Fait que moi, pour moi, les Eagles devraient gagner ce match-là. Les Giants, je les vois pas compétitifs longtemps, mais ils ont une excellente défensive. Si la défensive ralentit assez l'attaque puis peut arrêter le jeu au sol, puis ils sont capables de le faire, peut-être ça peut donner un beau match.
Tu vois, je ferai peut-être un petit vidéo demain pour l'assistant bet du jour, mais j'aime beaucoup les Giants plus 7.5 dans ce match-là. Sont quand même. Moi, je pense que les Giants, je pense pas, je les vois pas nécessairement perdre par plus qu'un touché. Fait que moi, les Giants plus 7.5, j'aime ça. Puis la ligne est à 40.5. Comme tu dis, les Giants ont quand même une bonne défensive. Les Eagles aussi.
Excellente défensive.
Je serais pas étonné que ce soit un under 40.5 dans une courte semaine en plus. Fait que je ferai peut-être un petit vidéo demain là-dessus, mais j'aime ces deux petits paris-là pour demain.
Quand les Giants perdent, là, ils perdent par une ou deux possessions. Ils ne se font pas blowout, là, genre 40-0, là, comme d'autres on a vu. Ou 44-10. Maintenant, match Broncos-Jets. Très intéressant quand même comme match, je trouve. Deux équipes de la AFC. Les Broncos, peut-être la meilleure équipe à 3-2 selon moi. Puis les Jets, qui avaient des beaux flashs depuis le début, mais ça ne punk pas du tout. Ouais, 0-5. Ouais. Est-ce que c'est Londres? Est-ce que c'est le voyage qui vont faire que ça va débloquer un petit peu pour eux? Est-ce qu'on a un upset potentiel, Marc, à Londres? Ou non, tu ne vois pas du tout?
Moi, je ne le vois pas venir, là, honnêtement. Moi, je trouve que les Broncos, c'est une équipe qui est bien rodée, qui est bien coachée. Un début de saison un peu plus lent, mais ça reste que moi, je vois vraiment les Broncos bâtir sur leur victoire de la semaine passée contre les Eagles puis continuer le continuer d'augmenter. Puis pour vrai, avec les déboires des Chargers, moi, j'ai pas de mal à voir que les Broncos pourraient prendre la pole dans cette division-là, puis peut-être même la gagner. Moi, je vois vraiment pas une... Tu sais, s'il y a des upsets à avoir en fin de semaine, je le vois pas arriver dans ce match-là, honnêtement.
Parce que peut-être que les Dolphins vont se rallier à l'attaque, puis ils peuvent battre les Chargers, là. Tu sais, j'ai pris pour les
ouais,
Chargers
exactement.
Maintenant,
mais je l'ai dit tantôt.
Je serais pas surpris si les Dolphins l'emportent dans ce match-là.
Absolument. Pour moi, s'il y a un upset à avoir cette semaine, c'est beaucoup plus les Dolphins sur les Chargers que les Jets sur les Broncos.
Vraiment à surveiller. Puis un match dimanche matin, c'est sûr, je regarde ça.
Ben oui, c'est sûr.
Les Rams visitent les Ravens. Donc là, c'est quand même à Baltimore. Mais les Rams paraissent extrêmement bien dernièrement. Avec, tu parlais dans le fond, le jeu au sol qui a débloqué. Ouais. Puis ces deux receveurs de passe incroyables avec Puka Nacua. Et aussi avec ton ancien petit favori, ton petit chouchou, là, nomme-le donc.
Qui ça? Davante Adams.
Davante
Let's go.
Adams.
Let's go.
Je pensais que tu allais comme donner son numéro ou tu avais un petit surnom pour lui. Là.
Non.
D.A.
D.A.
D.A. ça fait District Attorney, là, mais quand même.
Exact. Moi, même chose, je vois pas d'upset là. Moi, je pense que les Rams s'en vont faire une petite balade dans le parc à Baltimore. Là.
Mais par contre, dans cette plage horaire-là, les Rams-Ravens, Cowboys-Panthers, Cardinals-Colts, Seahawks-Jaguars, Chargers-Dolphins, Browns-Steelers, Patriots-Saints, le match Rams-Ravens m'intéresse énormément. Mais par contre, il y en a peut-être un de plus que j'aimerais qu'on parle. Seahawks contre Jaguars.
Ben, moi, c'est le match de cette plage horaire-là. Je sais que Browns-Steelers, toi, c'est les Steelers d'un duel de division, tu vas regarder ça. Mais ouais. Moi, Seahawks-Jaguars, j'ai vraiment été impressionné par les Jaguars contre les Chiefs. Les Seahawks, je les ai vus la semaine d'avant. J'avais aimé leur match. Je pense que c'est une équipe qui a vraiment bien compétitionné contre Tampa Bay. Même si je n'ai pas vu le match au complet, j'ai vu des séquences. Ils ont compétitionné contre Tampa Bay, qui est dans les top 3 ou top 4 équipes de la NFL actuellement. Fait que je pense que c'est un match qui peut vraiment être intéressant, Seahawks-Jaguars.
Ça va être divertissant. Puis même si je regarde Browns-Steelers, je sais que ce ne sera pas le match le plus divertissant au monde. Deux bonnes défensives. Les Browns, l'attaque, il ne va pas, tu sais, nulle part en tant que ça. Mais les Browns vont faire des sacks sur Aaron Rodgers. Ils vont créer des revirements. Ils peuvent intercepter la balle. Ils peuvent créer des fumbles aussi. Donc, c'est un match qui va être ultra défensif. Peut-être qu'il y aura un gros jeu qui va faire la différence, comme Dickie Metcalf qui court pour 70 verges. On ne sait pas. Mais ce n'est pas un match que je recommande. Moi, c'est le match que je vais regarder. Mais le match que je recommande, c'est Seahawks-Jaguars. Là. Genre, pour vrai, si c'est plate, les Browns et les Steelers, là, je switch à Seahawks-Jaguars assez vite. Là.
Vraiment, vraiment. Les Jaguars sont favoris par 1, pour vous donner une idée. Pour les...
Extrêmement serré quand même.
Ouais, vraiment. Alors, puis, ouais.
Parlons des matchs à 4 heures. Il y a 3 matchs à 4 heures seulement, donc moins de choix, mais quand même des bons petits choix, je trouve. Titans Raiders, 2 équipes à 1 et 4. 49ers Buccaneers, 2 équipes à 4 et 1. Les Bengals à 2 et 3 visitent les Packers à 2-1-1. Et oui, ils ont fait une nulle plus tôt dans la saison.
Oui, oui.
Donc, quand même, 3 matchs que je trouve ils ont tous leurs couleurs différentes.
Oui.
Parmi ces matchs-là,
mais,
moi, quoi,
mais je suis pas tant d'accord parce que le deuxième, c'est 2 en rouge. Fait que 49ers, Buccaneers, les deux sont en rouge. Fait que c'est pas tant des couleurs différentes.
Je suis daltonien. Moi, je vois pas ça. Non, c'est faux. Je vois bien les couleurs. Mais 49ers, Buccaneers, on dirait pour moi, c'est le match à surveiller contre deux équipes qui pourraient aspirer à amener leur division. Puis, dans le fond, c'est deux bonnes équipes de football qui font un bon spectacle, du bon divertissement. Fait que, tu sais, mais toi, tu vas peut-être voir Bengals-Packers.
Ben, moi, c'est sûr que je vais vouloir écouter Bengals-Packers, mais ça reste que moi, le match de cette plage horaire-là, c'est 49ers-Buccaneers. C'est vraiment le match. Pour vous donner une idée, les Packers sont favoris par 14 points contre les Bengals. Puis pour vrai, je pense que j'aurais même pas de malaise à prendre le Packers moins 14 dans ce match-là. Moi, je m'attends vraiment à un massacre. C'est peut-être parce que mon cœur est avec les Packers, mais avec le bye week, l'attaque des Packers a faite contre les Cowboys il y a 2 semaines. Les Bengals qui s'en vont nulle part.
Les Packers ont eu 2 gros matchs défensifs puis 2 matchs où la défensive n'était pas là du tout.
Oui, exact.
Mais
c'est que je vois pas l'attaque des Bengals produire grand-chose.
Comme dans la défaite aussi, je pense. Dans la défaite des Browns, ils ont quand même accordé seulement 13 points. Fait que pour moi, c'est un des matchs que je vois.
Oui, ben oui.
Moi, tu sais, les Packers n'accorderont pas grand-chose aux Bengals. Bengals auront leur jeu quand même. Mais avec Joe Flacco qui vient d'arriver, peut-être ça donne un second souffle. Peut-être qu'il va commencer son meilleur match avec les Bengals à ce moment-là.
C'est possible, peut-être.
Mais ce n'est pas un match que je recommande. Mais
non, 49ers, Buccaneers. Oui,
100%. Ils ont leur petite blessure, mais qui jouent extrêmement bien quand même. Les deux bons entraîneurs-chefs aussi. C'est vraiment un match à surveiller, selon moi.
Oui, vraiment.
Et là, match super intéressant, prime time. Les Lions visitent les Chiefs. Ça, c'est un match à regarder. Ça joue extrêmement bien. Tu sais, à Arrowhead Stadium. Est-ce que les Lions ont ce qu'il faut pour l'emporter contre les Chiefs là-bas?
Moi, je m'attends à un match ultra serré. Les Chiefs sont favoris par 2 actuellement. Fait que ceux qui pensent que les Lions vont gagner, le Détroit plus 2 ou Détroit Moneyline est intéressant. Détroit Moneyline est à 2,20 fois la mise. C'est quand même vraiment intéressant. Mais les Lions, depuis leur défaite contre les Packers la semaine 1, leur attaque est redevenue le roller derby de l'année passée. Super. C'est incroyable. C'est des fessayants après fessayants. Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown. J'aime ce que les Chiefs nous montrent depuis 2 ou 3 semaines.
Montgomery aussi, là.
Oui, Montgomery aussi. Mais j'aime ce que les Chiefs nous montrent depuis 2 ou 3 semaines. Mais j'ai comme l'impression que les Lions ont un peu plus de firepower que les Chiefs.
Puis maintenant, ils ont la défensive en santé qu'il n'y avait pas l'année passée.
Ouais,
en fin de saison.
Absolument. Fait donc, que j'ai tendance à favoriser
des jeux, là.
J'ai tendance à favoriser les Lions, mais c'est clairement un match à ne pas manquer, là. Écoutez, ce match-là dimanche soir, c'est
les
vraiment...
Les Chiefs auront leur séquence. Ils peuvent te mettre un toucher en, comme tu as dit, 6 jeux, 2 minutes de jeu. Fait que c'est vraiment un match à surveiller.
Ouais.
Moi, c'est un match que je risque de me coucher tard pour le
revoir.
C'est un match que... Même si une équipe ne marque pas beaucoup de points, ça ne m'étonnerait même pas qu'une équipe rentre au vestiaire, genre 21-10 ou 21-7, puis que ce soit comme complètement l'opposé à la deuxième demi, suite à des ajustements ou un switch de momentum. Fait que je ne sais pas, ce match-là peut être de façon différente, genre chacun s'échange de lead, ou une équipe va bien en première demi, puis l'autre la rattrape, puis est-ce qu'ils vont avoir assez de jus pour pouvoir gagner le match. Il y a plein de manières dont ce match-là peut se jouer, mais c'est 2 excellentes attaques puis 2 bonnes défensives.
Le over-under est à 53 dans ce match-là. C'est vraiment élevé quand même.
Ça va être atteint. Ça,
ouais,
ça va être
atteint. Puis ça, il y a des bonnes chances que ça finisse over de 53, là, ce match-là. Fait que...
Moi, si j'avais à parier, ça serait over 53.
Over, ouais.
Maintenant, Bills visite les Falcons et les Bears visite les Commanders dans 2 matchs le lundi. Encore une fois, là.
Ça fait quelques fois cette année. C'est vraiment cool.
Double plageur le lundi.
Ouais.
Ils enlèvent un match à 4 heures puis ils le mettent là. Je ne sais pas si c'est à cause des ondes puis des heures, je ne sais pas.
Peut-être les droits de télédiffusion qui ont...
Droits de télédiffusion ou des spectacles dans ces arènes-là, je ne sais pas. Est-ce que Taylor Swift a tassé quelqu'un pour faire un show? C'est quoi? Donc, les Bills contre les Falcons, est-ce que les Falcons bounce back suite à leur défaite contre les Patriots?
Moi, je pense que oui, là, surtout contre les Falcons, qui n'est pas nécessairement une super grosse équipe. J'aime pas trop ce que Michael Penix nous offre depuis le début de la saison. Même s'ils ont eu, une excellente partie là, après leur défaite, ils ont bounce back avec un 40 points la semaine d'après. Mais moi, je vois les Bills gagner ça. Actuellement, la cote est à 4. Donc, les Bills sont favoris juste par 4. Moi, je serais très, très à l'aise de prendre les Bills moins 4.
Moi, j'ai regardé le début du match, mais je switch à Bears. Dès que je peux.
Vraiment.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les Bears. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas entendu trop parler d'eux non plus. Je n'ai pas vu beaucoup de faits saillants. Donc, je suis curieux de voir les Bears. Ben ouais, mais même la semaine 2 et 3, je te dirais. La semaine 1, je les ai regardés. Mais depuis la semaine 1, je ne les ai pas vus. Mais oui, ils étaient en bail.
Ouais,
c'est pour ça que j'ai cherché partout. Puis les Commanders aussi, là, up and down. Là, je me demande, est-ce que ça s'est stabilisé? C'est quoi? Est-ce que c'est le genre de truc qui, maintenant, ils vont se rallier et ça va mieux se passer? Ils viennent de gagner un match dernière semaine. 3-2 au lieu de 2-3 fait une grosse différence dans la NFC. Beaucoup d'équipes à 3-2, donc il faut quand même qu'ils aillent chercher leur match. Il y a une équipe à 10 victoires qui ne fera pas les playoffs dans la NFC.
C'est très possible, très, très possible.
Comme à chaque année, donc ça va être des matchs extrêmement importants contre les Bears qui, eux, sont dans une division extrêmement compétitive aussi. Donc, les deux équipes doivent gagner. C'est des équipes extrêmement importantes de gagner maintenant. Donc, ils sont déjà un peu en éliminatoire. Puis, ça fait longtemps que je n'ai pas eu les Commanders et les Bears jouer. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'ils auront à offrir contre, dans la peau des deux contre un adversaire accessible. Pour les Bears, Commanders sont accessibles, puis pour les Commanders, les Bears sont accessibles aussi.
Je vais reprendre les mots de Lozé. Pour moi, ce match-là est plus important pour les Bears que pour les Commanders. Si les Bears ont certaines aspirations cette année, c'est un match que tu ne peux pas échapper parce que si tu échappes ce match-là, pour moi, il va déjà être trop tard. Tu reviens d'un bye week. C'est une équipe qui est prenable, les Commanders. Tu ne peux pas échapper ça parce qu'après ça, tu vas affronter les Lions, tu vas affronter les Packers. Tu sais, tu as encore beaucoup de matchs, de gros matchs. Tu vas affronter les Steelers. Tu as des gros matchs encore d'ici la fin de l'année.
La division est stacked.
Exactement.
Les Commanders, c'est un adversaire prenable. Mais par contre, je me demande, c'est que les Commanders peuvent gagner mais ça dépend de ce qu'on est capable d'établir un jeu au sol. Puis le jeu au sol ne doit pas juste dépendre de Daniels.
C'est Crockett, mais comment est-ce que Crockett, Mary Crockett, Merritt, c'est un nom composé, lui, là.
Il va être capable de mettre des séquences, des jeux explosifs. Est-ce qu'il va briser les plaqués?
Il l'a fait la semaine passée. Je ne sais pas s'il va être capable de le faire contre les Bears, là, mais...
Il avait des jambes fraîches. Les gens du footage, ils vont pouvoir l'étudier, voir voici qu'est-ce qu'il a fait. Forcément, me battre différemment. Et les Bears sont capables d'arrêter la course. Ils sont capables aussi de la laisser passer. Là. Ils ont fait les deux. Là, mais est-ce que ça va être la bougie d'allumage ou est-ce que c'est Daniels qui va courir? Ça dépendra pour moi du jeu au sol des Commanders parce qu'ils ont ce qu'il faut comme receveur de passe pour pouvoir capter des ballons et faire des gros jeux explosifs. Mais est-ce que le jeu au sol va aider ton corps arrière? Va aider à contrôler le pace du jeu, tu sais, comme courir une fois que le ballon, gagner 5 verges, ça ouvre le livre de jeu. Si tu cours avec le ballon puis tu perds 3 verges, t'es rendu à 2 et 13, il y a un problème. Là.
Oh, exact. Moi, je m'attends à un match serré. La cote est à 4.5. Les Commanders sont favoris par 4.5. Moi, je serais à l'aise de prendre Chicago plus 4.5. Je vois un match serré qui peut aller d'un bord comme de l'autre qui risque de finir par une possession. Fait que je serais à l'aise d'y aller avec Chicago plus 4.5.
C'est un match divertissant pour eux.
Oui, vraiment.
Il y a des points qui vont être marqués. Il y aura des jeux qui vont être faits. Il y aura des turnovers. Tu sais, turnover, c'est souvent comme péjoratif de l'attaque. Donc, il y aura des takeovers par la défensive.
Voilà.
Est sur le positif. Voilà. Let's go la def. Des fois, c'est l'attaque qui cafoue un petit peu.
Des fois,
c'est la défensive qui fait les jeux.
C'est le gros jeu,
Comme les Chiefs ont fait contre Trevor Lawrence. Mais ça m'a fait un podcast plus court. On s'est permis de radoter un petit peu, un segment plus long peut-être.
Oui, puis on s'est aussi permis de jaser un peu plus de différentes choses qu'on fait pas. Playoff picture, on a plus à aborder les matchs à venir. Fait qu'on s'est permis ça vu qu'on était juste.
Mais shout-out à Marco et à Lozé qui nous amènent ailleurs. C'est très le fun de vous avoir. On a hâte que vous reveniez. Puis peut-être qu'il y a une semaine, c'est moi qui ne serai pas là ou c'est toi qui ne seras pas là. Hein.
On sait jamais.
On leur souhaite du mieux.
Ouais.
Marco, juste, on te souhaite une paye parce que c'est ton travail. Mais Lozé, répète comme il faut. Puis reviens-nous en forme la semaine prochaine.
Voilà.
C'était Marc-André et Julien. Puis on se laisse sur du dualité. Des beaux matchs à venir, des upsets. On est d'accord, nous autres, les quatre. Il y a beaucoup de quatre personnes qui prennent pour la même équipe.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on va être genre 75% des bonnes prédictions? Est-ce qu'on va être à
25%? Ou 25,
c'est ça. C'est à voir, mais on se voit la semaine prochaine. Ciao, Marc-André. À très bientôt.
Hey, ciao tout le monde. Yes, sir.